BO mensuel, émission produite par Benoît Basirico sur Aligre FM et en replay sur cinésique.fr, qui dévoile chaque mois sa sélection de musiques de films, nos coups de cœur passés et à venir, de musique originale. Au programme, un retour sur nos coups de cœur récents, notamment Dumbo et Ma vie avec John F. Donovan, que nous commenterons avec Ishtar Mathus Echeiz et Thibaut Vic. Suite au Festival d'Aubagne, qui s'est achevé le 23 mars dernier, nous reviendrons sur la musique de trois courts-métrages lauréats du prix Cinésic, décerné pour la première fois à la musique originale au sein des courts-métrages français de la compétition. Puis des avant-premières avec nos deux invités, tout d'abord Alexis Rau, qui vient nous présenter sa nouvelle collaboration avec André Téchiné, pour Adieu à la nuit à l'affiche le 24 avril prochain, et Frédéric Vercheval qui vient nous présenter Duel de Olivier Massé de Passe. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
À tout à l'heure.
Faites semblant de dormir, un maximum de cinéma.
BO récente, notre sélection donc des BO sortis au mois de mars. Tout d'abord le 13 mars dernier, Convoi exceptionnel, comédie de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Grégoire Hetzel fait la rencontre du cinéaste. Comme à son habitude, Bertrand Blier, très iconoclaste, très même surréaliste, et la musique instaure un discours parallèle. Elle ne soutient pas forcément ce qui se passe dans l'image, mais elle est vraiment secondaire. De Grégoire Hetzel pour Convoi exceptionnel de Bertrand Blier, qui insuffle comme ça un rythme presque jazzy qui est en fait très insolite de la part de Grégoire Hetzel. Toujours notre sélection du mois de mars, avec toujours le 13 mars dernier sorti Ma vie avec John F. Donovan, premier film anglophone de Xavier Dolan, avec Jacob Tremblay, l'enfant, Nathalie Portman, la mère, et Kit Harington, vedette de la télévision américaine. Gabriel Yared retrouve le réalisateur québécois après Tom à la ferme en 2013 et juste La fin du monde. Et je peux dire que c'est l'une des partitions de Gabriel Yared de ces 10 dernières années qui m'a le plus ému. Et peut-être à contresens de la critique actuelle, c'est le film de Xavier Dolan que je préfère. De Gabriel Yared pour Ma vie avec John F. Donovan. Écoutons Thibaut Vic qu'il nous parle de cette partition.
C'est vraiment un film de personnages, un film qui est peut-être plus pudique que ses précédents. Et la musique de Gabriel Yared qui est vraiment très douce, ce piano-flûte-chant avec les thèmes des deux personnages. Dès qu'il y a la musique de Gabriel Yared, il y a comme un nouveau souffle qui s'opère au niveau du film avec vraiment ses beaux thèmes. Et cette façon de lier les univers et les destins, je trouve que la musique a vraiment ce lien connecteur et un vrai vecteur d'émotion. Et c'est un film complètement différent dès qu'il y a la musique de Gabriel Yared. La musique de Gabriel Yared fonctionne beaucoup sur les silences, sur le vide, sur cette solitude de ces personnages. Donc on ressent vraiment au plus proche de ces personnages. Je trouve que c'est une excellente musique originale de par l'orchestration qui exprime bien la solitude des deux personnages. Piano, flûte, voix, des passages avec des cordes plus anxieuses. Il y a vraiment beaucoup de subtilité. Il y a des harmonies qui sont presque subliminales et qui attendent au niveau du silence de pouvoir s'exprimer. Il y a une sorte d'avancée entre la mélodie, l'harmonie et le silence que je trouve assez brillante. Pour moi, c'est vraiment une très belle composition originale.
Merci à Thibaut Vic pour son avis sur le film de Xavier Dolan, sa musique de Gabriel Yared, et merci au compositeur Gabriel Yared de nous avoir confié cette BO, puisque à ce jour, elle est encore indisponible, donc c'est une exclusivité pour vous. Le 20 mars dernier, on continue de remonter le mois de mars avec Dernier amour, romance historique de Benoît Jacquot avec Vincent Lindon en Casanova et Stacy Martin en jeune courtisane qui lui fera oublier ses autres femmes. Bruno Coulet retrouve le cinéaste pour la 8e fois au cinéma depuis Villa Amalia et après Journal d'une femme de chambre, À jamais ou encore Eva. Un clavecin au sein de l'orchestre vient rappeler le contexte historique Dernier amour. Thank you. Dernier amour à l'instant musique de Bruno Coulet. Toujours le 20 mars, Us, film d'horreur de Jordan Peele, avec Lupita Nyong'o, Winston Duck et Elizabeth Moss. Et Michael Abels retrouve le réalisateur après Get Out pour Us donc. À mi-chemin entre le Omen de Jerry Goldsmith et le Under the Skin de Mika Levy, à l'instant c'était Michael Abels pour Us. Et enfin, le 27 février dernier est sorti Dumbo, avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green et un éléphant. Danny Elfman retrouve Tim Burton pour Disney après Frankenweenie et Alice in Wonderland. Nous sommes parfaitement dans l'univers de Burton, car nous retrouvons Danny DeVito, le pingouin de Batman Returns, et le Batman lui-même, Michael Keaton, avec Colin Farrell et Eva Green, qui étaient aussi présents dans d'autres films de Tim Burton. C'est un peu comme un film somme pour Tim Burton, et on retrouve même une des plus belles partitions de Danny Elfman pour Tim Burton, qui est pour moi Édouard Romain d'Argent, et on retrouve cet esprit-là dans cette partition Dumbo. Thank you. Jumbo, musique de Danny Elfman, qui m'a jamais autant surpris depuis longtemps. On retrouve certes ces voix célestes, cette mélodie à la Édouard Romain d'Argent, mais il y a aussi ce violoncelle très surprenant pour Danny Elfman. À l'occasion de cette sortie de Dumbo, Ishtar Mathus Eshays nous parle du duo réalisateur-compositeur Tim Burton-Danny Elfman. D'entendre un extrait du générique de La planète des singes de Tim Burton, film de 2001. Mais cela fait au moins 30 ans que ce tandem travaille ensemble, n'est-ce pas Ishtar ?
Au même titre d'ailleurs que Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, Nino Rota, Federico Fellini, Sergio Leone, Ennio Morricone ou encore Steven Spielberg, John Williams, Tim Burton et Danny Elfman sont devenus vraiment indissociables et ils ont commencé à travailler ensemble en 1985 quand le réalisateur Tim Burton a réalisé son premier long métrage qui était Pee-wee's Big Adventure et 34 ans plus tard avec Dumbo, ils en sont à pas moins de leur 17e long métrage ensemble, ce qui fait un film tous les deux ans en moyenne, ce qui est quand même pas mal.
Que pouvez-vous nous dire en quelques mots sur ce compositeur donc ?
Danny Elfman est né en 1953 dans le Texas. Il a fait partie d'un groupe New Wave Oingo Boingo qui avait été créé par son frère. Il a été dans ce groupe pendant une vingtaine d'années avant de commencer sa carrière en tant que compositeur de musique de film en 82, soit 3 ans avant le début de sa collaboration avec Tim Burton. Et d'ailleurs, celle-ci est loin d'être exclusive puisqu'il a composé les bandes originales de beaucoup d'autres films, dont les deux premiers Spider-Man au début des années 2000 et celle de Wolfman avec Benicio del Toro. Il est aussi l'auteur de la musique des génériques des séries Desperate Housewives ou encore Les Simpsons.
Tout à fait, il a eu aussi beaucoup d'autres partenaires en dehors de Tim Burton, notamment Sam Raimi sur 5 films ou encore Gus Van Sant sur 7 films, mais on est loin des 17 films avec Tim Burton. Malgré cela, il n'a malheureusement pas été honoré comme il le mérite.
Effectivement, il n'a par exemple jamais été récompensé aux Oscars malgré ses 4 nominations.
Et comment qualifierez-vous sa musique ?
Le premier mot qui me vient pour qualifier la musique de Danny Elfman, même s'il est, j'en conviens, très réducteur, c'est le mot cyclique. En effet, je trouve que sa musique donne souvent la sensation d'être comme une roue qui est lancée. On peut entendre cette caractéristique notamment dans les génériques de Alice au Pays des Merveilles ou encore Charlie et la Chocolaterie. La musique de Danny Elfman a clairement, par cet aspect-là, un des accents de musique minimaliste. Et elle est aussi parfois très percussive. C'était le cas dans le générique de La planète des sages qu'on vient d'entendre. Et ça l'est aussi dans certains passages de la musique du film Wolfman.
Oui, on sent aussi une évolution dans le parcours de Danny Elfman qui est de peut-être très mélodique au début pour aller vers le minimalisme, même si avec Dumbo, il renoue peut-être avec ses premiers amours musicales. Pour finir, vous avez choisi un autre extrait à nous faire entendre.
Tout à fait, j'ai choisi le générique de Pee-wee's Big Adventure, le premier film donc du duo, je le rappelle. Le style Elfman était bien présent dès ce film en 1985.
Pee-wee's Big Adventure, donc, musique de Danny Elfman pour Tim Burton, merci Ishtar. Et on entend d'ailleurs, il a deux références Danny Elfman, il a toujours eu la référence Bernard Herrmann, il a d'ailleurs repris la musique de Bernard Herrmann de Psycho dans le remake de Gus Van Sant, et Nino Rota, et on entend Nino Rota, partition pour Fellini, à travers ce que l'on vient d'entendre, Pee-wee's Big Adventure.
Tu ne bouges absolument pas, tu restes dans ton lit, tu refermes les yeux.
Avant de recevoir nos invités, Alexis Rowe et Frédéric Vercheval, focus sur un des trois courts-métrages récompensés pour le prix Cinésic au Festival d'Aubagne. C'est la première année pour ces 20 ans que, lors du Festival d'Aubagne, dédié à la musique de film tous les ans au mois de mars, Cinésic remettait des prix pour les musiques dans les courts-métrages français en compétition. Premier focus, les Jouvencelles de Delphine Corard et la musique originale signée Antoine Duchesne. L'histoire d'amitié en maison de retraite entre une vieille dame, incarnée par Annie Cordy, pensionnaire déprimée, et une jeune employée de l'établissement. Les Jouvencelles, musique de Antoine Duchesne que l'on va entendre dans ce magnéto.
La maison de retraite est un personnage à part entière. Et il ne s'agit pas du tout d'en faire un personnage musical. Donc elle arrive assez tard, elle arrive vraiment au moment de la naissance de l'amitié. On est vraiment resté là-dessus. Le scénario original, la première fois que je l'ai lu, il y avait une dimension comédie qui était un petit peu plus appuyée que celle qu'on a sur le résultat final. Ça a permis à la musique de vraiment avoir ce côté-là, d'alléger ce qui se passe, ce côté un peu mortifère de la maison de retraite, et de perdre ce côté vraiment dramatique qu'on aurait eu sans la musique. C'est juste ce qu'il fallait, c'était trouver le ton juste. J'ai eu la chance de tomber sur une réalisatrice qui aime la musique et qui aime bien quand elle est présente. Donc en fait, le film, on l'a commencé par la fin, on a d'abord trouvé un thème, tout en sachant que ce thème, ce serait l'apothéose de la fin du film. Voilà, cette petite ode à la vie. Et puis après, de l'étioler un peu jusqu'au début du film pour la construire petit à petit. D'expérience, les réalisateurs ont plutôt peur de mettre de la musique sous les dialogues. C'est vraiment Delphine qui a pris une musique, qui l'a reposée à cet endroit-là et qui a vu que ça mettait cette scène en valeur. La musique de base, de fin, c'est presque celle du générique qu'on entend vraiment au piano à la fin. C'est une valse, c'est une danse, c'est le cercle de la vie en quelque sorte, c'est quelque chose d'entraînant.
Musique de Antoine Duchesne pour Les Jouvencelles, un court-métrage qui a donc été mentionné au Festival d'Aubagne au sein du prix Cinésic. Et nous avons entendu les mots d'Antoine Duchesne. Nous retrouverons tout à l'heure deux autres sujets pour les deux autres prix.
Je suis compositeur. Ah, mais je suis l'auteur de la chanson.
Benoît Basirico et Cinésic sur Allegre FM pour l'actualité du mois de la musique de film.
Alexis Rau, rebonjour.
Bonjour.
En 2016, vous faites la rencontre de André Téchiné pour Quand on a 17 ans et vous le retrouvez sur Nos années folles en 2017. Et avec L'adieu à la nuit, c'est donc la troisième collaboration avec lui. Le film sort le 24 avril avec Cassie Moticlin qui est Alex en pleine radicalisation religieuse et Catherine Deneuve, la grand-mère qui n'a rien vu venir et Oulaya Amaya, la petite amie avec laquelle il se prépare à partir. L'adieu à la nuit, donc on écoute votre musique Alexis Rau. Alors comme je le disais, vous retrouvez pour la troisième fois André Téchiné. Comment il vous a présenté pour la première fois ce nouveau projet ?
Il m'en parlait un petit peu pendant l'écriture. Il a écrit le film avec Léa Missus. Je crois qu'il écrivait pendant la post-production de Nos années folles. Donc il m'en parlait un petit peu. Puis ensuite, il m'en a plus parlé. Je suis intervenu quand le film était presque fini de monter. Comme souvent, à part Nos années folles, parce que c'était un film un peu musical, donc il avait besoin de travailler en amont. Sinon, il aime bien avoir un film qui se tient entièrement, sans musique. Et utiliser ensuite la musique pour aller un peu plus loin, pour peaufiner, illustrer tout ça. Mais il aime bien que le film se tienne. Je pense que même il rêverait de faire un film sans musique. Voilà.
Et la nécessité du coup d'une musique, arrivée a posteriori, s'est présentée de quelle manière ?
C'est un film délicat parce que c'est un thème très clivant, un thème fort, et que faut faire attention de ne pas ajouter du... En plus, moi, le cinéma de Téchiné est un cinéma qui est très pudique. Lui, il l'est. Son cinéma l'est. C'est un cinéma qui ne porte pas de jugement de valeur. Il n'y a jamais de bons, de méchants. C'est que des gens qui font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils sont, d'où ils viennent, etc., leur histoire, leur biographie. Donc avec la musique, on pouvait vite mettre l'accent sur des émotions, guider un peu trop le spectateur, leur imposer trop telle émotion. Voilà. Donc on voulait laisser la liberté aux gens d'avoir de l'empathie ou pas. Sur ces personnages-là. L'idée, c'était juste principalement de montrer la lumière, je crois, avec la musique. C'était surtout ça, oui, montrer la lumière.
Montrer la lumière, c'est vrai que la musique a un aspect plutôt climatique, presque voilà, lors de la couleur. Vous n'avez pas forcément écrit là un thème simple, évident, parce que du coup, un thème simple aurait pu justement ne pas convenir au sujet.
Au début, on devrait me parler d'un... Il avait en tête un motif un peu obsédant comme ça, qui pouvait l'aider à déceler la beauté. Voilà, c'est-à-dire montrer l'intelligence, l'ouverture d'esprit de Muriel, le personnage qui est interprété par Catherine Deneuve, ou de montrer l'idéal romantique chez les jeunes. Voilà, montrer tout ce qu'il y a d'humain dans leur déshumanisation. Et ensuite, voilà, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est la musique du générique, l'ouverture du film. Qui est une musique très nébuleuse, asphyxiante, un peu inquiétante. Et ensuite, le propos, c'était d'aller vers la musique de fin, qui est une musique beaucoup plus épurée, plus lumineuse et plus minimaliste. Donc c'est ce chemin-là qu'on fait.
Musique d'Alexis Rau, notre invité pour L'adieu à la nuit d'André Téchiné, sorti le 24 mars prochain. La musique est parcimonieuse, hein, le travail de l'emplacement est assez judicieux, et c'est comme si la musique était des miettes de pain qui traçaient finalement le parcours à des moments clés.
Oui, c'est vrai, comme souvent chez Téchiné, il n'y a pas de musique sous les dialogues, mais quand la musique est là, elle a du temps pour s'exprimer, et elle est signifiante. C'est pas un... si elle ne dit pas quelque chose, on l'enlève. Donc effectivement, c'est pour montrer un petit peu le chemin de Muriel et le chemin la radicalisation et cette recherche de lumière, de beauté qu'on essaie de encore une fois de montrer ce qu'il peut y avoir de beau là-dedans sans apporter un jugement.
Il y a quelque part de l'ordre de l'espoir à travers la musique.
Il y a de l'ordre de l'espoir, effectivement. Il y a quelque chose aussi, je trouve, de fantastique un petit peu. C'est l'histoire de gamins qui cherchent un nouvel enracinement, finalement. Et donc, il y a un truc comme ça, un peu maléfique, quoi. Et donc, un peu fantastique, un peu nébuleux. Et on le voit au début du film, le générique de l'éclipse, qui montre justement le passage de la nuit au jour.
Et il y a le curseur, finalement, sur un sujet aussi délicat. Il y a à la fois la musique ne les condamne pas. Et en même temps, l'idée n'était pas de dire c'est génial de faire ça.
Pas du tout, non. C'est de montrer que ça reste des êtres humains qui ont sombré dans quelque chose qui est évidemment inacceptable, mais qui le font, ils y trouvent leur raison, eux. Ils trouvent quelque chose qu'ils ont perdu en France, et ils cherchent un nouvel enracinement, un nouvel espoir pour eux, qui évidemment n'est pas le nôtre, enfin.
L'idée peut-être aussi de cette musique, c'est d'épouser leur point de vue quelque part.
Exactement, d'être avec eux, dans leur vérité à eux, effectivement. Et de ne pas avoir une espèce de jugement un peu condescendant vu du dessus, qui ne servira à rien. Et puis c'est aussi le propos d'un homme de l'âge d'André, qui est celui de l'âge de Catherine Deneuve dans le film. Donc le regard de leur génération sur une jeunesse, une certaine jeunesse qui se déshumanise. Il y a aussi ce truc-là, je crois.
André Téchiné, quel réalisateur est-il sur ce film-là pour un compositeur? Est-ce qu'il était très directif? Le choix des cordes, le choix... Comment il est?
Il offre un cadre très précis, mais dans ce cadre-là, on est très libre de faire ce qu'on veut. Il n'est pas directif dans l'instrumentation, dans l'orchestration. Il y a des choses, je sais, puis je le connais maintenant, qu'il n'aime pas. Il n'aime pas trop le piano. Je trouve qu'il n'a plus trop envie de travailler du piano. Il n'aime pas trop les mélodies trop insistantes, trop évidentes. Mais non, on est très libre. Puis on est surtout libre de ne pas être d'accord avec lui, éventuellement. Il aime bien aussi qu'on lui propose autre chose, qu'on dépasse un peu, qu'on lui propose quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Au pire, il n'aime pas, mais il est content d'avoir essayé autre chose. Il aime bien prendre les risques, de sortir de sa zone de confort. Donc c'est agréable, évidemment, d'être guidé, parce qu'on a besoin, c'est ce qu'on cherche aussi, d'être guidé. On n'a pas envie d'avoir carte blanche, ça n'aurait pas de sens, surtout qu'on travaille avec quelqu'un de ce talent-là. Donc on est guidé, mais on est très libre. Et puis l'intérêt aussi de se connaître, c'est qu'on n'a pas peur, j'ai pas peur de me tromper avec lui. Ça, c'est un luxe incroyable.
Et puis le fait qu'il monte son film sans musique et qu'au final, la possibilité de ne pas en avoir se présente, fait que vous arrivez sans musique préétablie.
Ouais. Alors, il avait en thème un truc en tête, c'est un tout petit thème de Richter, je crois, c'était ça. Un petit motif répétitif qu'il aimait comme ça pour, je pense, à lui donner pour voir un peu ce que disait son film avec une musique comme ça, ce qu'il avait en tête. Donc, c'était la seule chose qui était posée, enfin, qui m'a fait écouter.
Et est-ce que l'idée était de fonctionner par soustraction, c'est-à-dire de faire beaucoup de musique et ensuite d'en enlever? Comment ça? Vous étiez plutôt par soustraction ou par composer pour tel ou tel endroit précis?
Alors, tel ou tel endroit, puis on essayait de voir ce que ça disait sans, si ça apportait quelque chose vraiment. Et puis parfois aussi, je suggérais d'en ajouter un ou deux moments. Une fois, il a adhéré, et puis une fois, non. Voilà. Mais c'était quand même assez, il a quand même une idée assez précise de ce que la musique doit apporter à son film. Pas de ce qu'elle doit être fondamentalement en elle-même, mais ce qu'elle doit apporter à son film. Quoi. C'est au fond ce qu'on demande à un metteur en scène, de savoir ce qu'il attend de nous. Ce que la musique peut apporter à sa mise en scène.
Et on dit souvent d'un compositeur de musique de film qui fait la musique du réalisateur. J'ai l'impression que ce que vous faites pour André Téchiné, vous ne le faites pas ailleurs. On peut peut-être déceler un style avec Siro, mais en tout cas, ce que vous faites pour André Téchiné, ça n'a rien à voir avec d'autres partitions pour le cinéma.
Non, c'est vrai. Et curieusement, c'est la musique qui m'est le plus naturelle à moi. La musique de ce film-là, de quand on a 17 ans, ouais, c'est quelque chose que je ferais assez naturellement. Donc c'est un cinéma que je crois bien comprendre, humainement, on s'entend bien. Et puis j'ai une admiration évidemment sans limite pour certains metteurs en scène. Et voilà, non, il y a quelque chose d'assez naturel dans la collaboration.
Merci Alexis Rowe, l'adieu à la nuit. Thank you. Magnifique partition de Alex Hiro pour L'Adieu à la nuit. Je rappelle la sortie du film le 24 avril. Y aura-t-il un disque, Alexis ?
Probablement, oui.
Très bien. Ouais. Et prochain film également qui se présentera dans l'année ?
Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Léa Gobé, film d'animation, qui sortira en septembre ou octobre.
Très bien. À bientôt, donc.
Merci.
Je ne travaille pas, je n'ai aucune obligation dans la vie. Vous serez ma seule préoccupation.
Nous retrouvons les prix Cinésic à Aubagne, festival d'Aubagne. Trois prix donc décernés par Cinésic auprès des courts-métrages français en compétition. Ce focus-là s'intéresse à L'Allée des Jasmins, un film de Stéphane Lee Kwong, et la musique de Clovis Schneider. Au début des années 60, Loan, une jeune vietnamienne, et Pierre, son mari, un eurasien de nationalité française, arrivent en France pour la première fois et sont accueillis dans un petit village d'Auvergne. Musique donc de Clovis Schneider, que l'on va aussi entendre commenter cette partie pour L'Allée des Jasmins.
Dans le film, la musique intervient à quatre endroits principalement, en dehors du générique du début et du générique de fin qui encadre finalement le film. Et ces quatre moments sont des ellipses en fait dans le temps où elle va avancer comme ça et à chaque fois va avoir cette nostalgie du retour au pays et qui va finalement jamais arriver. C'est un quatuor pour harpe, piano, flûte et violoncelle. On a quand même des couleurs qui peuvent rappeler des sonorités d'instruments vietnamiens. La flûte, le violoncelle en pizzicato souvent. Et puis en fait la harpe qui double le piano et qui du coup donne une ambiguïté sur la sonorité. C'est une couleur originale quoi avec cet ensemble instrumental. Le thème pour moi était comme une évidence. Et puis au fur et à mesure que l'histoire avance, que le personnage avance, faire évoluer aussi ce thème vers autre chose pour arriver à la fin où on le retrouve mélangé à un autre thème, une sorte de deuxième thème, plus fin, plus léger, plus discret. Et à chaque fois, voilà, varier un peu l'accompagnement, varier avec ce quatuor, les rôles de chaque instrument. Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose de cyclique qui revient perpétuellement, mais de manière variée en fait. La collaboration avec Stéphane, un réalisateur, etc. Pour moi, c'est toujours ce qui est le plus intéressant en fait dans la musique de film, dans la musique pour le cinéma, parce que c'est ça aussi qui moi va me sortir de ma zone de confort, c'est ça qui va me faire aller explorer de nouvelles choses que je connais pas. C'est ça que j'adore en fait. C'est ça qui me fait vibrer. Allez, des Jasmins, un des prix Cinésic au festival d'Aubagne, un court-métrage donc et musique de Clovis Schneider.
Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé ?
Je vous annonce que les deux prochaines émissions, celle du 6 mai et celle de juin, seront intégralement consacrées au Festival de Cannes. La première pour annoncer la sélection, la deuxième avec des bouts d'interviews prises sur le festival et des musiques, donc des films. Donc on déborde un peu sur le mois de mai avec un film qui sort le 1er mai pour annoncer nos coups de cœur à venir et une musique donc de Frédéric Vercheval. Rebonjour.
Bonjour.
Alors il s'agit de Duel avec Olivier Massé de Passe. Vous le retrouvez 10 ans après Cage en 2008. Vous êtes belge, c'est un film franco-belge. Il sort donc le 1er mai avec Verl Bettens et Anne Cossens qui sont Alice et Céline, deux mères qui voient leur amitié mise en péril après l'accident d'un des enfants. Musique de Frédéric Vercheval pour Duel, notre invité. On entend cette musique de cordes très angoissante. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un thriller ?
Oui, clairement. Hein. C'est un thriller psychologique qui se passe dans les années 60. Donc évidemment, les références à Hitchcock et Herman étaient difficiles à éviter. Je n'ai pas essayé de recopier Herman, évidemment. Hein. Ça, je n'y serais pas arrivé. Et donc, on a essayé de trouver couleur, donc la musique commence par un premier thème. Il y a plus ou moins trois thèmes. Il y a ce premier thème qui représente quelque part la dualité, le fil duel entre ces deux amies. Et tout est un peu en miroir, même le décor. Elles habitent deux maisons l'une à côté de l'autre qui se ressemblent très fort. Et le film va petit à petit aller vers des zones de plus en plus sombres, ce que la musique va suivre, évidemment.
Et on voit vraiment ce film du point de vue des mères. Est-ce qu'il s'agit justement d'une musique plutôt psychologique qui s'intéresse à l'intériorité des personnages ?
Oui, tout à fait. Le deuxième thème, lui, est clairement lié à l'intériorité d'un des personnages, Alice, qui, elle, a un doute. Et donc, on ressent vraiment son angoisse, son doute par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'elle est parano ? Est-ce que c'est la réalité ? Et le troisième thème est l'intériorité de Céline, qui elle est plus basée sur la souffrance de ce qui est en train de se passer.
Vous êtes intervenu à quel stade ?
Alors assez tôt, parce que je connais bien Olivier, parce que on a fait trois films ensemble, c'est le troisième. Et donc il m'avait déjà parlé du projet avant qu'il soit même écrit. Enfin, c'est une adaptation d'un bouquin, mais le projet était là. Et puis, donc, il fait écouter des musiques. Et puis après, sur base du scénario, j'ai commencé à proposer les premières thématiques.
D'accord, donc c'est vraiment les personnages à l'écriture qui ont influencé la musique. Et ensuite, j'imagine qu'à l'image ou au montage, il y a eu des adaptations.
Oui, complètement, oui. Donc, le premier thème a été proposé sur scénario. Après, ça a été vraiment pendant le montage. Et ça a été... le premier thème, Olivier a tout de suite bien aimé. Après, la construction narrative a été plus complexe, puisque c'est vraiment un thriller. Donc, on est plus vraiment très, très proche du montage et de ce qui se passe.
Alors, vous êtes belge, comme je le disais, et le cinéma belge n'est pas forcément réputé pour utiliser beaucoup de musique. Si on cite Joachim Lafosse ou les Frères Dardenne, ici, la musique existe vraiment au premier plan.
Oui, là, disons comme c'est vraiment un film de genre, le film avait besoin de musique. Donc, c'était un challenge très, très passionnant à faire. Oui.
Et quel rapport le réalisateur a-t-il alors avec cette musique ? Pour lui, c'est vraiment quelque chose d'incontournable ?
Dans ce film-ci, oui, complètement. Il avait donc envie que cette musique s'assombrisse, parce qu'il voulait petit à petit rentrer des éléments plus électroniques. Donc c'est vraiment une partition orchestrale, il y a 35 musiciens. Et puis petit à petit, On a essayé des choses. Alors, il y a des choses qui ne marchaient pas, donc que le film rejetait. Et puis, il y a des choses, tout à coup, qui marchaient, donc qu'on a trouvées.
On entend ces cordes, voilà, et on entend aussi des textures un peu numériques peut-être qui viennent s'ajouter. Il y a ces deux musiques orchestrales amples et textures. Il y a à la fois le thème et la couleur.
Ces espèces de trémolo dans les aigus là, qui donnent un effet un peu plus aérien. Et à la fois, j'avais envie aussi de jouer avec les cordes. Elles sont souvent, je les fais jouer souvent un peu les bacs, un peu en retard. Et ça donne un peu un côté sensuel, érotique et à la fois sombre et noir et un peu angoissant.
Donc là, on parle de Duel de Olivier Massé-Depasse, mais Frédéric Vercheval, vous avez aussi travaillé avec Lucas Bellevaux, notamment sur Pas son genre ou Chez nous. Est-ce que ce sont des méthodes différentes d'un réalisateur à l'autre ?
Oui, disons que Lucas Bellevaux, j'ai l'impression de travailler un peu plus comme ce que disait Alexis avec Téchiné. C'est-à-dire qu'il a aussi un montage qui marche sans musique. Ceci dit, je commence souvent assez tôt dans le processus du montage, donc on essaie des choses, mais c'est aussi extrêmement précis. Par rapport aux endroits où il veut de la musique, où il n'en veut pas. Voilà, donc c'est un peu différent. Olivier Massé-Depasse, donc le réalisateur de Duel, est aussi très précis, mais c'est un autre style. C'est plus on essaye, on triture la musique, on recommence. Ce que je trouve aussi assez intéressant, de prendre la musique comme un autre élément narratif du film, comme l'image ou les décors, de pouvoir... Que le réalisateur puisse les utiliser comme un outil, les triturer, les malaxer, recommencer à chercher des choses.
Et vous parliez d'Hitchcock, est-ce que Bernard Herrmann était cité par le réalisateur ?
Oui, tout à fait, mais il y a eu beaucoup de choses. Il m'a parlé de John Greenwood aussi, donc qui est évidemment assez différent d'Herrmann, mais essayer de trouver des... Ça, c'est plus dans les thèmes qui viennent à la fin, il y a un peu plus de dissonance, de choses comme ça. Et puis essayer de créer un lien entre peut-être une tradition plus américaine de la musique de film et avec une tradition plus européenne. Donc essayer de faire un mélange entre cette musique américaine qui est très fonctionnelle, qui est toujours très efficace, et un côté peut-être un peu plus fragile et plus poétique qu'ont les Européens.
Entre l'Amérique et l'Europe, Duel, donc votre musique, Frédéric Vercheval. Duel, on frissonne à l'écoute de la musique et nous vous invitons donc à frissonner en salle le 1er mai en allant voir Duel et nous entendons là le thème principal se déployer. Merci Frédéric Vercheval.
Merci à vous.
Je ne travaille pas, je n'ai aucune obligation dans la vie. Vous serez ma seule préoccupation.
Et troisième focus sur un court-métrage mentionné au festival d'Aubagne pour le prix Cinésique, Scaramouche de Arthur Mollard, un musique originale de Andrea Boccadoro, un court-métrage d'horreur. À travers les yeux défaillants d'Ophélie, fillette hantée par un inquiétant ami imaginaire, Scaramouche. Et nous entendons la musique de Andrea Boccadoro avec les propos du réalisateur Arthur Mollard.
Du film, c'est l'imaginaire de l'enfance et à quel moment cet imaginaire-là peut flirter avec une forme de folie. Donc il fallait que la musique puisse incarner cette enfance-là. Je suis rapidement je voulais travailler avec Andrea, donc il a lu le scénario et même avant qu'on tourne, mais je crois qu'il m'avait déjà proposé des choses. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, de travailler avec le compositeur en amont. C'est super parce que même sur le tournage, on a déjà un peu en tête ce qui pourrait être la musique. Je trouve que c'est pas mal de fonctionner comme ça. Et on avait des vraies affinités en termes de goût. On aime beaucoup tous les deux la musique de film un peu à l'ancienne, avec vraiment des thèmes développés pour soit les personnages, soit les thématiques, et puis faire évoluer ces thèmes-là au cours du film, les faire se croiser, les faire se nourrir ou s'affronter. Et on partageait cette même vision-là. Mon envie, c'était de faire un film d'horreur, et je lui ai proposé de faire la musique parce que je me suis dit que ce serait très intéressant d'avoir une approche à l'ancienne de la musique de film et de faire un film d'horreur comme ça. Les musiques de films d'horreur actuelles ont tendance à être un peu atonales. Enfin, c'est facile de tomber dans des clichés dans la musique de films d'horreur. Beaucoup de sons de drone ou de ce genre de choses. Comme là, c'était un film d'horreur qui racontait une histoire assez difficile quand même. En parallèle, il fallait qu'il y ait un cœur émotionnel assez fort. Je ressentais le besoin d'avoir une musique qui puisse à la fois prendre en charge la dimension effrayante du film et à la fois la dimension émouvante. J'adore le genre. Je suis vraiment un amoureux du cinéma fantastique en général. Que la musique aille à cet endroit-là, pendant une fête d'anniversaire, du côté de quelque chose de forain, ça nous semblait assez logique et assez intéressant pour recréer un peu l'ivresse qui confine au vertige au bout d'un moment de l'héroïne dans cette scène-là. Et là, je pense à une musique d'éléphantine. Il a envoyé plein de choses à écouter. Ces références-là, c'était plus une manière pour moi de l'aider à trianguler ce que je voulais, en quelque sorte. Donc, on s'est effectivement échangé pas mal de références. J'avais donné la bande originale de Reality de Matteo Garonne, qui était faite par Alexandre Desplein, qui est du coup pas du tout un film d'horreur, qui a une tonalité très enfantine. Il y avait des films d'horreur quand même pas mal hein, dans ce que je lui ai envoyé. Il y avait des morceaux de Bartok qui ont été utilisés dans Shining, une musique de Michael Giacchino, le remake de Morse. S'appelle Let Me In. Bon, il y avait aussi un peu du James Newton Award sur Sixième Sens. Des morceaux de Marco Beltrami aussi sur Woman in Black.
de Andrea Boccadoro à l'instant et nous avons entendu le réalisateur Arthur Mollard nous parler de cette partition et puis des références qu'il avait indiquées au compositeur pour le court-métrage Scaramouche, un des courts-métrages donc primés par Cinésic au dernier festival d'Aubagne.
Dites, Coco, tu aimes ça la musique ?
La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
De plus en plus, des coups de cœur musique de film apparaissent dans les nouvelles plateformes. Des grands réalisateurs passent par ces plateformes, dernièrement les frères Cohen, ou encore Alfonso Cuarón, mais également attirent notre œil, mais aussi nos oreilles. De grands compositeurs passent par ces plateformes, notamment Marco Beltrami ces derniers mois. Et là donc, un coup de cœur Netflix et un coup de cœur Amazon. Tout d'abord Netflix, The Highwaymen, avec Kevin Costner et Woody Harrelson à la poursuite de Bonnie and Clyde. C'est un peu le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, mais à l'envers, puisqu'on épouse le point de vue de ceux qui vont les attraper. Et Thomas Newman, le compositeur attitré de Sam Mendes, notamment American Beauty, retrouve John Lee Hancock après Saving Mr. Banks. On sent à travers cette partition de Thomas Newman dans The Highwaymen sur Netflix actuellement qu'il y a une traversée de l'Amérique profonde à travers ses sonorités presque cajun dans The Highwaymen. Et maintenant sur Amazon, c'est une série, 8 épisodes, ça s'appelle Anna, créée par David Farr, qui adapte son script pour le film éponyme de Joe Wright en 2011. Il l'adapte donc en série et Geoff Barrow et Ben Salisbury en signent la musique. Anna, musique de Geoff Barrow et Ben Salisbury pour la série de 8 épisodes actuellement disponible sur Amazon Prime Video.
Oh, j'adore ce job, on rencontre toutes sortes de stars.
Mmh. Maintenant, nos coups de cœur des musiques du mois d'avril à venir. Tout d'abord sorti le 3 avril, le Parc des Merveilles, animation de Robert Iskow, avec Stephen Price à la partition. Le Parc des Merveilles, on entend à travers cette partition que l'histoire se situe dans un parc d'attractions. Le 3 avril, toujours Lost Silencio, c'est un drame brésilien de Béatrice Seigneur et le compositeur colombien Nasqui Linares signe la musique. On sent le côté hispanique dans la partition avec cette guitare, Los Silencios, donc sortie le 3 avril. Le 10 avril, l'incroyable aventure de Bella, aventure familiale de Charles Martin Smith sur un chien qui voyage plus de 600 km pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. Le compositeur canadien Michael Dana retrouve le réalisateur américain après Stone of Destiny et The Snow Walker. musique de Michael Dana pour l'incroyable aventure de Bella, et enfin, 17 avril, Monsieur Link, animation de Chris Butler, avec à la partition Carter Burwell. On reconnaît l'écriture de Carter Burwell à travers ce Monsieur Link, un film d'animation qui est un des rares dessins animés auxquels Carter Burwell avait participé après Dingo et Max en 1995 et Anomalisa en 2015.
Et maintenant, le clou de notre spectacle.
Nous ne cessons, mois après mois, de rendre des hommages. Je ne vais pas lister les tristes disparitions de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Fraîchement dans ma tête me vient Agnès Varda, évidemment. Et Agnès Varda n'est pas étrangère à l'hommage que nous rendrons maintenant. Nous avons évidemment déjà évoqué la disparition de Michel Legrand. Michel Legrand, donc, qui avait écrit pour Agnès Varda, et son compagnon Jacques Demy, qui était aussi apparu dans un film d'Agnès Varda au piano. Eh bien, un concert hommage de Michel Legrand se tient au Grand Rex les 17 et 18 avril prochains. Concert hommage à Michel Legrand sous la direction artistique de Richard Galliano, avec des grands artistes du jazz et de la chanson qui vont lui rendre hommage, notamment Michel Portal, Ibrahim Malouf ou encore Nathalie Dessé au chant ou encore Nana Mouskouri. Manuel Bleton, notre fidèle chroniqueur, rend à sa manière son hommage à Michel Legrand. Au revoir.
C'est magnifique, tout à coup, quand ce thème revient. Joseph Kosma dans les bandes, les enfants du paradis. La musique de Morricone dans Mission. Écoutez, quand j'entends les chœurs de Mission, je hurle chez moi, je marche au plafond. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est magnifique. Ça.
Michel Legrand.
Formidable.
Henri Mancini reprend Les Moulins de mon cœur et Un été 42.
La musique de John Williams dans Always, par exemple. Qu'est-ce que c'est bien fait. Formidable. Parce que les gens ne savent pas. La liberté créatrice n'existe que dans la contrainte. Quand on est complètement libre, quand on dit « Moi, je n'ai pas de règles, je suis libre, j'ai fait... » Ça donne quoi ?
Les mariés de l'an 2.
Elle doit être suffisamment belle, suffisamment bonne, suffisamment intéressante pour jouer seule en concert. Sinon, c'est pas une bonne musique de film.
Ice Station Zebra.
Thank you. trouve que l'orchestration fait partie de la composition. En orchestrant, je change la musique. C'est très important. Ravel n'a jamais fait orchestrer par d'autres. Stravinsky non plus.
Oda Billy Joe.
Déjà fini. Interview Benoît Vaziricco. On termine avec une reprise des Parapluies de Cherbourg au Mou par Jean-Jacques Perret et Kingsley.
Formidable.